Genève, 15 ans plus tôt. Avril, 3 mois après le grand week-end.
Oh mon Dieu !
S'extasia Olga comme si elle venait d'avoir un orgasme en voyant la bague au doigt d'Anastasia.
Ce diamant est énorme !
Ayant entendu le mot « diamant », Irina courut.
« Klaus t'a déjà demandé en mariage ? »
s'étrangla-t-elle.
« Ça fait à peine quelques mois que vous êtes ensemble. »
« Ne t'inquiète pas, » la rassura Anastasia. « Ce n'est pas une bague de fiançailles. » Irina poussa un soupir de soulagement. Son gestionnaire de fortune l'avait demandé en mariage 2 semaines plus tôt et elle ne voulait pas se faire voler la vedette par sa sœur. Oui, elle ne pensait pas qu'il ferait sa demande si vite, mais comme il le disait lui-même, il n'était pas si jeune. Mariage prévu à l'automne. Hôtel Beau Rivage, en principe. Rien que ça.
Ce Klaus, quand même !
S'émerveilla Olga.
D'abord les boucles d'oreilles, après le collier, maintenant une bague. Il offre des diamants comme ça. Juste pour faire plaisir à sa bien-aimée.
Surtout, occupe-t'en bien.
Ne le laisse pas filer.
Anastasia força un sourire. Elle voulut expliquer à sa mère que plus il lui faisait mal, plus les cadeaux étaient gros. Elle voulut déboutonner son chemisier et montrer les bleus qui lui marquaient le corps. Mais elle n'osa pas. Elle avait honte. Elle avait peur qu'on ne la prenne pas au sérieux. Et puis, il avait promis que ça ne se reproduirait plus. Il avait promis de se faire aider à gérer ses accès de colère. Quand il s'emportait, il regrettait aussitôt. Il lui demandait pardon, se mettait à genoux, l'appelait sa princesse. Elle ne savait plus quoi penser.
« Quelle belle rencontre, ce Klaus !»
dit alors Olga.
« Je suis heureuse pour toi, Nastia. Et je ne dis pas ça par rapport au cadeau. C'est un type bien, ça se sent. Souriant, généreux, et puis vous faites un très beau couple. »
« On a des problèmes, » confia Anastasia.
« Mais tous les couples ont des problèmes, ma fille. Les problèmes, c'est bon signe. Ça signifie que le couple vit et se soude. Un couple, ça se construit. N'oublie jamais qu'il n'y a pas de problème qui ne puisse pas être réglé. »
« Klaus doit rentrer définitivement à Bruxelles dans un mois. Il veut que je vienne m'y installer avec lui. »
« C'est formidable! Vous allez emménager ensemble!
Ça veut dire que c'est du sérieux.
Je n'ai même pas terminé mes études. » Bah, tu pourrais les terminer à Bruxelles, non ? Et puis franchement, tu crois vraiment que c'est avec des études de littérature que tu t'en tireras dans la vie ? Alors que tu as ce gentil jeune homme, de très bonne famille et tout amouraché qui veut t'emmener avec lui ? J'ai connu des dilemmes pires que celui-ci.
Avec Klaus, tout s'était fait si vite. Anastasia ne savait plus très bien ni comment, ni pourquoi. Après que Lev lui eut posé un lapin le soir du bal, elle avait beaucoup réfléchi. Se voyait-elle vraiment vivre dans une chambre de bonne toute sa vie ? Elle ne voulait pas finir aigrie comme sa mère. Elle s'était persuadée que son histoire avec Lev finirait en eau de boudin. Alors elle avait revu Klaus, elle s'était laissée séduire. Il lui offrait la promesse d'une vie différente, loin de toutes les difficultés qu'elle avait pu connaître. Mais il ne supportait pas d'être contredit. Il ne supportait pas la frustration. Il était facilement brutal. Elle se sentait si seule. Son unique et véritable ami était Macaire et Besner. Elle ne le connaissait pourtant pas depuis très longtemps, mais il se montrait si gentil et attentionné à son égard. Depuis le grand week-end, elle le revoyait régulièrement. Ils se retrouvaient pour prendre un thé au Rémor, le café un peu intello de la place du cirque, et pouvaient y passer des heures. Le dimanche, il l'invitait chez ses parents, qui habitaient une magnifique propriété à Collonges-Bellerive. Anastasia n'était pas attirée par Macaire, mais elle se sentait bien avec lui. Elle pouvait être elle-même et se confier. Il savait tout. Son histoire familiale, le petit appartement des Paquis, sa mère, vendeuse au bon génie. Quand Anastasia annonça à Macaire son départ imminent pour Bruxelles, il lui dit qu'elle lui manquerait beaucoup, qu'il viendrait lui rendre visite en Belgique, qu'il s'écrirait. Devant le Rémor, au moment de se dire adieu, elle lui avait collé un gros baiser sur la joue. Au fond, songea-t-elle ce jour-là, le seul homme qu'elle avait jamais aimé passionnément, c'était Lev, le petit employé d'hôtel. Depuis le grand week-end, ils étaient restés en contact. Tous les dimanches, elle allait s'installer dans une cabine téléphonique et elle appelait le restaurant du palace. Elle demandait à parler à Lev. On la connaissait maintenant. Le maître d'hôtel allait chercher Lev et bientôt, il apparaissait à l'autre bout du fil.
Elle était tellement heureuse quand elle entendait le son de sa voix. Une excitation indescriptible l'envahissait. Mais pourquoi l'avait-il conduite le samedi soir du ballet Besnard? Il n'avait jamais voulu lui donner de véritables explications, se contentant d'arguer qu'il avait été retenu. Et puis, il avait promis à plusieurs reprises qu'il prendrait le train pour venir la voir à Genève, mais il ne l'avait jamais fait, invoquant toujours une excuse. S'il tenait vraiment à elle, il aurait tenu parole. Elle déduisait de ce comportement que Lev ne tenait pas vraiment à elle, alors qu'elle pensait à lui sans cesse. Au cours de leurs nombreux appels, elle n'avait jamais osé lui révéler sa relation avec Klaus. Peut-être la preuve qu'elle l'aimait. Anastasia partit pour Bruxelles le premier dimanche d'avril. Ce ne fut que ce jour-là, depuis une cabine de l'aéroport de Genève Cointrin, qu'elle trouva le courage de téléphoner à Lev pour lui annoncer son départ.
« Anastasia ?»
dit Lev tout enjoué en prenant le téléphone. « J'ai rencontré quelqu'un, » lui dit-elle d'emblée. « Il s'appelle Klaus. » Lev, touché au cœur, s'efforça de masquer sa douleur.
« Tu as le droit de faire ce que tu veux, »
répondit-il sèchement.
« Nous ne sommes pas vraiment ensemble, de toute façon. C'est pour ça que tu m'appelles ?»«
Je pars avec lui vivre à Bruxelles. »«
Quand ?»«
Aujourd'hui. » Deuxième coup de poignard. Il y eut un long silence. Elle se sentit obligée de se justifier. « Le samedi soir du bal, tu étais où ? Je t'ai attendu désespérément. » Il resta muet. Comment lui avouer qu'il avait été humilié par Besnard et s'était retrouvé à récurer de la vaisselle en guise de punition ?
« Peu importe, »
finit-il par dire.
« C'est qui ce Karl ?»«
Klaus, » corrigea Anastasia. « Son père a une industrie. »«
Il est riche ?»
demanda Lev. « Très, mais... » Elle s'interrompit. Avant de reprendre, « Ce n'est pas parce qu'il est riche, Lev, ça n'a rien à voir. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'en as rien à fiche de moi. »
« C'est pas vrai, »
protesta Lev. « Si c'était le cas, tu serais venu à Genève, comme tu me l'as promis tellement de fois. » Lev resta muet. Il tenait le combiné d'une main et de l'autre il jouait avec la bague qu'il gardait dans sa poche. La bague de sa mère, Dora, le seul objet qui lui restait d'elle. Cette bague était pour Anastasia. Il le savait depuis leur première nuit. Depuis décembre, il n'avait qu'une idée en tête, venir retrouver Anastasia à Genève et lui offrir ce bijou. Mais pour le moment, il n'avait pas le premier franc pour se payer un billet de train. Ses trois derniers salaires et sa prime de Noël avaient été rançonnés par M. Besnard en échange de son silence. Cela n'avait d'ailleurs servi à rien, car si Besnard avait tenu sa langue, les autres employés s'étaient chargés de le dénoncer à M. Rose. Ce dernier avait été furieux. Pour ne pas avoir à licencier Lev, il avait été obligé de lui infliger une sanction exemplaire. 1 mois de retenue sur salaire, ainsi qu'un blâme pour faute grave, doublé d'un dernier avertissement avant licenciement. Pour Lev, cela signifiait plus d'argent jusqu'en mai. Suite à cette réprimande, il lui avait été impensable de demander à M. Rose de lui avancer de l'argent. Quant à son père, il avait refusé de lui prêter la moindre somme. « Tu n'avais qu'à avoir des économies !» lui avait dit Sol, qui voulait donner une leçon à son fils. Lev avait bien essayé de prendre le train en resquillant, mais il s'était fait attraper par les contrôleurs à Montreux. Il avait été débarqué manu militari et s'était vu infliger une amende de surcroît. Et, bien entendu, il était beaucoup trop fier pour mentionner quoi que ce soit à Anastasia. Que penserait-elle de lui? Qu'il était un vagabond, un mauvais parti. « Au revoir, Lev, » murmura Anastasia, lui portant l'estocade. Une larme de rage coula sur la joue de Lev.
« Au revoir, Anastasia, »
dit-il en raccrochant abruptement. Une heure plus tard, lorsque son avion décolla et qu'elle contempla la Suisse et Lev qui s'éloignait d'elle, Anastasia, en pleurs contre le hublot, prit la mesure de l'erreur qu'elle venait de commettre. Dans la cuisine des Besnard, Anastasia confia à Arma. « Depuis le premier jour, Lev et moi savons que nous sommes faits l'un pour l'autre, mais la vie n'a pas cessé de nous séparer. » Arma, bouleversée, dit alors à sa patronne, « Je ne dirai rien, monsieur, c'est promis. Partez avec Lev. C'est votre destin. » À ce même moment, Macaire, suivant les indications qu'il avait reçues par téléphone, marchait dans la nuit sur le chemin de route. Soudain, Signor Tarnogol surgit de l'obscurité devant lui. Il semblait très nerveux.
« Je suis en danger, Macaire !»
lui confia d'emblée Tarnogol.
« Le contre-espionnage suisse est à Metrousse, La situation est grave. »
Macaire fit semblant d'être étonné par la nouvelle. Il songea que c'était le moment de faire part à Tarnogol de sa proposition. Simuler sa mort en échange de la place de président et de ses actions. Mais Tarnogol poursuivit.
« Les gouvernements suisses veulent m'empêcher de faire un coup d'État au sein de la banque. »«
C'est votre intention ?» interrogea Macaire. Tarnogol répondit dans un sourire mauvais.
« Tu n'as jamais eu la carrure d'un président, Macaire. Alors ne viens pas espérer que je te fasse élire et que je renonce à tout simplement pour apaiser le courroux de mes ennemis. J'ai plus de courage que ça. »« Vous êtes le diable !»
s'écria Macaire.
« Mais ça, tu le sais depuis 15 ans. »
rappela cyniquement Tarnogol.
« Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Je te propose un nouveau pacte. Gagnant-gagnant. »
« C'est-à-dire ?»«
Nous annulons notre accord d'il y a 15 ans. Je te rends tes actions et tu peux devenir président. Par contre, en contrepartie, tu me rends ce que je t'ai donné à l'époque. »«
Comment ça ?» s'étrangla Macaire.
« Je suis prêt à revenir en arrière, » donna Tarnogol. « Tu renonces à la contrepartie d'il y a 15 ans et tu deviens président de cette foutue banque !»«
Vous voulez dire que... » murmura Macaire sans oser terminer sa phrase.
« Je veux dire que tu perds Anastasia !»
s'écria Tarnogol d'un air diabolique.
« C'est ma condition. »«
Je vous interdis de toucher à un cheveu d'Anastasia !» menaça Macaire.
« Tu perdras Anastasia !»
répéta Tarnogol.
« Tu seras président de la banque, mais tu seras seul. »